Saint-Charbel, le 16 décembre 1898, en plein Moyen-Âge, avec les sorciers, les sorcières, les dragons et tout ça. Le 16 décembre 1898, à l'élévation de l'hostie pendant la messe, Saint-Charbel a subi un accident vasculaire cérébral apoplectique dont il n'a jamais récupéré. 8 jours plus tard, la veille de Noël, à l'âge de 70 ans, le saint est mort, prêtre depuis 39 ans. Selon la tradition monastique, le corps n'a pas été embaumé, mais a été vêtu d'une simple soutane, a été placé dans la chapelle du monastère pendant 24 heures. Donc il commençait à se décomposer. Mais 24 heures pour prier auprès du corps, et après le corps était transmis à la chambre funéraire des moines en présence de ses confrères et des gens du village qui avaient bravé la neige et le froid pour assister à l'inhumation parce que il avait une réputation de sainteté extraordinaire. Les villageois qui vivaient dans des maisons face au monastère ont vu une grande lumière sur la tombe la nuit qui suivit l'enterrement. Phénomène qui se reproduisit pendant 45 nuits. Cette apparition de la lumière avec l'enthousiasme des fidèles a encouragé les autorités ecclésiastiques à ouvrir la tombe et à transférer les restes à une tombe plus accessible aux villageois qui souhaitaient prier à côté d'eux. Oui, mais ce qui n'est pas dit, c'est que, le tombeau a été ouvert le 15 avril 1804, non, au bout des 45 nuits, le corps était souple. 45 jours, quand même. 15 avril 1899. En présence de la communauté de 10 témoins présents à l'enterrement 4 mois plus tôt, ils ont été unanimes à témoigner que l'eau avait affaibli le cimetière, transformant la tombe en boue. Et le corps du moine flottait sur la boue. Un corps dans l'eau, ça se gonfle comme un bibin d'homme.
Mais ce qu'il n'a pas dit, c'est que le tombeau se remplissait en permanence.
Oui.
D'eau.
Oui.
À la mort, il déversait l'eau, puis ça se remplissait à nouveau d'eau.
En plus. Lorsque le corps a été nettoyé, il a été trouvé parfaitement incorrompu. Les muscles souples, les cheveux de la tête et de la barbe intacts. À cette époque, on a également remarqué qu'un sérum mélangé avec du sang a filtré à partir des pores de la peau. Ils ont placé le corps dans un cercueil en bois qui a été vitré sur le dessus et ils l'ont emporté dans un petit oratoire monastique. Dès lors, en raison de la grande quantité de sang et de lymphe qui s'écoulait, du corps, les vêtements du saint ont été changés 2 fois par semaine. C'était pas de l'eau, c'était la lymphe et le sang. Je sais pas si vous vous rendez compte. Création de matière en permanence. Le bon Dieu, en 1900, vous voyez, c'était les années folles en France, n'est-ce pas? Et au Liban, c'était la foi. Oui. Les nouvelles du phénomène ont incité un nombre croissant de visiteurs qui, depuis 27 ans, ont été autorisés à voir et à toucher le corps. Il aurait dû quand même se décomposer, avec toutes les bactéries, tout ça, Le phénomène est plus étonnant quand on considère qu'en 1918, après une autopsie simple, le corps a été exposé sur la terrasse pendant la chaleur de l'été pendant 3 mois, sans déclencher la décomposition ni sécher la source du fluide. Ils l'ont mis sur la terrasse pour que ça s'arrête, en fait. Et ça ne s'est pas arrêté du tout. Lorsque l'autorité de l'ordre ont demandé à Rome la béatification, une procession, manifestation, rébellion. La traduction est... Après avoir été vêtu d'habillements sacerdotaux et le chef monastique, le corps a été placé dans un nouveau cercueil en bois recouvert de zinc. Divers documents ont été composés par des médecins, un notaire et des supérieurs de l'ordre et ont été placés dans un tube de zinc qui a été placé à côté du corps avant que le cercueil soit scellé avec la crête épiscopale. L'enterrement était dans une nouvelle tombe spécialement préparée. En février de l'année 1950, les pèlerins de la chapelle ont remarqué qu'un fluide circulait dans un coin de la tombe et se précipita sur le sol de la chapelle. Le fluide a été tracé à un coin du cercueil où le liquide a été vu goûter. par une petite fissure. 23 ans après avoir été placé dans cette tombe, le corps a de nouveau été examiné en présence de nombreuses autorités, a été complètement indemne de toute trace de corruption et était parfaitement flexible et réaliste. 1950, voyez, 52 ans après sa mort, il était encore souple et couvert de lymphe et de sang. Enfin bon, c'est... Pendant 67 ans, les restes du saint sont restés parfaitement conservés et ont été examinés à plusieurs reprises par des médecins dotés d'une formation moderne. Je crois que ça a cessé en 1970, à sa canonisation. Les saints qui ont ressuscité des morts. Alors, page 26. Après les apôtres, les saints ont continué à suivre les commandements de Jésus, de guérir les malades et d'élever les morts. Le livre « Saints qui ont soulevé les morts » aux éditions Tann, qui est une édition anglo-saxonne, du père Alfred Hébert, de 2004, documente près de 400 véritables histoires de miracles de résurrection. 400 morts dans l'histoire de l'Église. Et parmi ceux qui ont fait des résurrections de morts, alors là, Saint Vincent Ferrier, 1350-1419, autant dire que en 19, on va aller à Vannes, si je suis toujours là, et si vous êtes toujours là. L'un des plus grands travailleurs miraculeux, les thaumaturges dans l'histoire de l'Église catholique, était le prêtre dominicain Saint Vincent Ferrier. Il a déménagé dans les projecteurs, devant les gens ordinaires et les grands du monde. Il a déménagé, il a circulé. Il a converti 10 000 juifs en marchant directement dans leur synagogue et en leur prêchant. Et les juifs qui étaient présents, dans leur, je ne sais pas, ça devait être une grande réunion, ont transformé leur synagogue en église à la prédication de Saint Vincent Ferrier. Quand Saint Vincent Ferrier avait 46 ans et souffrait d'une maladie grave, notre Seigneur lui apparut, accompagné de Saint François d'Assise et de Saint Dominique. Notre Seigneur a dit à Vincent, entre autres choses, « Lève-toi et va prêcher contre le vice, car je t'ai spécialement choisi. Exhortez les pécheurs à la repentance, car mon jugement est proche. » 2 ans plus tard, en 1398, il reçut la permission de commencer son apostolat à la prédication. Saint Vincent a été envoyé dans toute l'Europe occidentale. Il a formé Saint Bernardin de Sienne, la bienheureuse Margaret de Savoie. Il avait le don des langues. Il parlait en espagnol et il fut compris partout, en français, en italien, en allemand, en anglais. Pas mal, hein? Et il s'appelait l'ange du jugement. Et il annonçait que la fin du monde était proche. Et que c'est lui qui allait l'empêcher, par la grâce de Dieu, si les gens se convertissaient. Il a été inquiété par l'Inquisition pour avoir dit ça. Voyez? Voyez? Il a converti 25 000 juifs dans sa vie et 8 000 musulmans, 8 000 morts. Son nombre total de conversions a été estimé à 200 000 personnes à travers les villes qu'il a traversées. Les juifs, les hérétiques, les catholiques apostats. À Toulouse, il a parlé sur la passion pendant 6 heures sans interruption devant une foule de 30 000 personnes à la place Saint-Étienne. Quand il a crié « Lève-toi, mort, et viens au jugement », toute la foule est tombée sur le visage en suppliant la miséricorde. 30 000 personnes, bah ! Apprendre les nombreuses autres merveilles de Saint-Vincent rend plus difficile d'accepter les récits de ces miracles. Ah, ça, alors là, ils ont Google traduction, c'est planté. L'Acta Sanctorum enregistre 873 miracles réalisés par le saint. 873. On a arrêté à 873. On n'en pouvait plus. Voilà. Et lui-même disait en 1412 qu'il avait opéré 3000 miracles. 70 personnes ont été délivrées de la possession diabolique par Saint Vincent Ferrier. On estime qu'il a ressuscité 28 morts. Ce qui est tout à fait correct. Un historien, comme l'auteur Andrew Pradel dit 30 morts, plus de 30 morts. Près de Palma de Mallorca, Saint-Vincent de Ferrier a calmé une tempête afin de prêcher sur un quai. Vous voyez, il était sur le bord du quai, il prêchait à la foule, mais il y avait une tempête qui s'est levée, il y en a fini. À Béziers, il arrêta une inondation. Aux portes de Vannes, il a guéri un grand nombre de malades. À Guérande, il a délivré un homme possédé par le diable et plus mort que vivant. Voilà. Il a rencontré un novice. Alphonse Borgia était dominicain. Donc Saint Vincent rencontre un jeune moine et il lui dit: vous deviendrez pape et vous me canoniserez. Plus tard, ce novice deviendra Calixte III et canonisera Saint Vincent Ferrier. Et il s'en est souvenu quand même, hein. Quand on vous dit « vous deviendrez pape », normalement, on le met dans un petit coin de sa mémoire et on achète une tiare, au cas où. C'est comme lorsqu'on dit à un prêtre « vous deviendrez évêque », mais non, et on achète une mitre qu'on met dans un petit tiroir au fond. Voilà. On ne sait jamais. Ah là 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 là, mon Dieu. Alors, à Pampelune, un innocent vient d'être condamné à mort. Saint Vincent, connaissant l'innocence, et l'avait dit, avant qu'il soit exécuté, alors que la procession conduit le pauvre homme à l'échafaud, il rencontre une autre procession, celle d'un homme qui était déjà mort. Donc, il y avait un condamné à mort. Saint Vincent, Ferrier avait dit, cet homme est innocent. Et là, les juges, les autorités municipales ont dit « Vous exagérez peut-être, tout ça, bon, parlez-nous du bon Dieu, mais bon. » Et il y avait une autre procession, enfin, un convoi funèbre sur la place. Le cadavre était porté sur une civière. Saint Vincent arrêta les deux convois, pour l'échafaud et pour le cimetière. Et il dit au cadavre, vous n'avez plus rien à gagner en mentant. Donc là, les gens le voient parler aux morts. Cet homme est-il coupable? Répondez-moi. Le mort s'est relevé, puis a prononcé les mots, il ne l'est pas. Comme l'homme a commencé à s'installer sur sa civière, Saint Vincent a offert de le récompenser pour son service. Il lui a donné l'opportunité de ressusciter. Mais l'homme a répondu, « Non, mon père, car je suis assuré du salut. » Avec cela, il est mort, voilà, et il a été porté au cimetière. Alors vous allez me dire, « il n'était pas vraiment mort et tout ça. » Ben oui, enfin, vous savez, il a ressuscité 30 morts, hein. Entre 28 et 30 morts.
Dans ce cas-là, qui agit alors?
Ben, c'est Dieu. Ben, Dieu remet l'âme dans le corps, permet à l'âme d'animer le corps et de parler.
Donc le Saint instrument.
L'instrument, lui, quand il pose ses questions, il prie Dieu de le faire. Dans un autre miracle crédité à Saint Vincent, le vénérable père Micon est déclaré comme prétendant un certain nombre de témoins réunis à Lérida devant l'église Saint-Jean, où Saint-Vincent a vu un cadavre. Avec un signe de croix, il a ressuscité le cadavre. L'homme et les pères du couvent de Calabre qui ont assisté à ce miracle ont tous signé. Il a fait un signe de croix. Enfin, voyez-vous, si quelqu'un a une mort apparente, hein, dans un hôpital, ça arrive. En règle générale, voyez-vous, quand on découvre que la personne est vivante, on lui fait pas pop-pop sur la joue en disant « Il y en a un comme ça qui a vu, je ne sais plus, une personne ouvrir l'œil. » Enfin, on a vérifié, elle était vivante. Mais on a mis du temps à se remettre sur ses deux pieds, hein. Elle n'était pas en forme du tout, hein. Elle n'avait pas mangé ni bu depuis un certain temps, et on l'avait descendue à la chambre froide. Donc je peux vous assurer qu'elle n'était pas fraîche, sans jeu de mots. Saint-Vincent, lui, il relève la personne. Ah oui, mais elle n'était pas vraiment morte. Oui, enfin, boum, la personne, elle est debout et en pleine santé. Oui. Vous avez un petit enfant de 12 ans qui est mort 50 ans après la mort de Saint-Vincent Ferrier. La mère a promis de construire une église en l'honneur de Saint-Vincent et l'enfant est revenu à la vie. Elle a dit, je promets de vous construire une chapelle, une église en votre honneur. Et l'enfant a ressuscité. Voilà. Eh oui. Alors, vous avez tout un monde de miracles, hein, ça c'était assez impressionnant. Je voulais aussi vous... Saint-Vincent Ferrier, est-ce qu'ils mettent le miracle de l'homme suspendu en l'air? Ils ne le mettent pas, ils n'osent pas, hein, hein, ils n'osent pas, ils n'osent pas. On lui avait interdit de faire des miracles. Et du coup, alors qu'il était dans la rue, vous avez un ouvrier qui est tombé d'un échafaudage. Il a immédiatement exprimé le souhait qu'il ne meure pas. Dieu l'a exaucé. Mais Saint-Vincent s'est rappelé de l'interdiction. Alors, il a dit, ah, je n'aurais pas dû. Donc, l'homme est resté en l'air. Il est allé au couvent des Dominicains, a demandé à son supérieur, qu'est-ce qu'il devait faire maintenant? Pendant ce temps-là, les gens se sont agglutinés en regardant l'ouvrier en l'air. Et son supérieur là, a envoyé bouler Saint-Vincent Ferrier en disant « Je ne veux plus entendre parler de vous » et ce qu'il a pris comme une autorisation. Et donc, il est revenu sur les lieux et a demandé à notre Seigneur de le descendre doucement. Mais vous voyez, lisez, il y a deux fois l'histoire, mais c'était impressionnant. Très très impressionnant. Alors, Saint-Vincent Ferrier, 28 résurrections, d'après l'historien Fages, n'est-ce pas? Fage ou Fages, je ne sais pas comment on le dit. Et voilà. Maintenant, les saints incorrompus, pour terminer, parce que là, j'ai été sans pitié. Pour vos longues nuits d'hiver jusqu'à la page 44, vous avez tous les saints incorrompus. Donc vous avez 236 voyages à faire si vous voulez faire des pèlerinages pour voir des corps incorrompus. Oui, oui. Cette liste se trouve en annexe du livre « L'amour plus fort que la souffrance, histoire médicale d'Yvonne Aimée de Malestroit » par le docteur Maéo et René Laurentin aux éditions François-Xavier de Guibert. Il n'existait que des listes fragmentaires sur les cas d'incorruption. Nous les avons collationnées et avons bénéficié de la révision de M. Boufflet, spécialiste en ces matières. Sa contribution a plus que doublé notre liste, 142 cas sur 235. Ce dossier, où sa part est prédominante, a bénéficié des sources suivantes. Le HL signifie Dr Hubert Larcher, le sang peut-il vaincre la mort? Paris Gallimard. Il présente deux cas. Herbert Thurston, les phénomènes physiques du mysticisme, 1938, traduction française aux éditions du Rocher de 1986, 55 cas. IG, Antoine Humbert Gourbert, La stigmatisation, 34 cas, un livre de 1894. Joachim Boufflet, archives privées, donc à vérifier. Hein. Donc je vous laisserai vérifier en allant sur les lieux et puis en faisant des prélèvements et tout ça. René Laurentin, travaux sur Catherine Labouré et Bernadette Soubirous, 3 cas. Sainte Bernadette Soubirou, l'incorruption de son corps a impressionné les médecins. Et il y a un pasteur qui a fait un livre où il dit que c'est le cas c'est le miracle le plus étonnant que Dieu ait fait. C'est-à-dire que c'est un pasteur protestant qui considère quand même que Bernadette, qui dit avoir vu la Vierge Marie, Immaculée Conception, est préservée de la corruption par Dieu. Parce que, voyez-vous, plusieurs années après sa mort, quand on a ouvert le cercueil, son tissu religieux était abîmé, humide, moisi, son chapelet était attaqué par la moisissure, hein, et puis on pouvait prendre sa main et faire ça, quoi. Je crois que c'est plus de 20 ans après sa mort. Hein.
Et là, ce qu'on voit, c'est...
Il y a un masque de cire. Oui, mais là, on met un masque de cire parce que sa peau est à l'air libre. Mais on a même étudié son sang, hein, puisqu'elle est morte d'une infection pulmonaire épouvantable qui provoque une décomposition en 2 secondes. Hein, je vous assure, toutes les bactéries, là, elle est morte, c'est bon. Et bien là, boum, tout a été figé. Mais c'est très impressionnant. Les tissus musculaires sont souples. Enfin, les médecins n'en revenaient pas. Et il y a un petit miracle au passage. On a voulu changer ses vêtements et sa coiffe dans les années 90. Donc on a retiré le haut de la châsse, le cercueil en verre où on dépose le corps d'un saint s'appelle une châsse, et les sœurs se sont mises à quatre pour retirer le corps de la châsse, pour lui changer sa coiffe, enfin faire autre chose, je sais plus. Impossible de sortir le corps. Je suppose que les sœurs en question ont remis un voile depuis, ou l'avaient, et que leurs cheveux sont devenus blancs, parce que, si vous voulez, quand vous prenez un corps de 35 kilos à la dernière pesée et qu'il est impossible de le déplacer, ça doit faire un choc. Vous voyez ? C'est comme si moi, pendant que je vous parle, tout d'un coup, j'essaye de prendre ces feuilles et j'y arrive pas. Sauf qu'un corps, c'est plus impressionnant. Monsieur Boufflet a exclu de ses collationnements quelques cas non justifiés. Saint Vincent Ferrier, hein, dont les reliques ont été réparties, hein, donc. Colette de Corbie, Saint Jean de Saint Facon, Saint Pie V, Saint Louis de Gonzague, Saint Pierre le Vladika, mort en 1830, c'est un saint orthodoxe, et les critères d'incorruptibilité sont assez différents par rapport à l'Église catholique. 236 cas de corps non corrompus, dont 56 sont stigmatisés. 135 femmes, 101 hommes, et il oublie Jacinthe. Son corps était peut-être corrompu, je ne sais pas, mais sa tête était intacte. Ils ont ouvert le cercueil, il y avait son petit visage. Voilà. Avant le 11e siècle, 8, au 11e siècle, 2. Au 12e siècle 1, au 13e siècle 11, au 14e siècle 10, au 15e 22, au 16e 28, au 17e 42, au 18e 17, au 20e siècle 41, au 19e siècle 41 et au 20e siècle 54. Attention, hein, il faut vérifier, mais l'incorruption de Saint Charbel est absolument impressionnante, parce que plus de 50 ans sans se décomposer, avec de la lymphe mêlée de sang qui coule sans arrêt, ben c'est pas mal. Et le Padre Pio, alors lui, on a ouvert son cercueil, on a vu à travers la vitre, et là actuellement je crois qu'il a même pas de cire sur le visage. On a maquillé son visage, on a mis de la poudre, mais ses yeux sont rebondis, son nez est parfait, ses lèvres sont parfaites. C'est impressionnant, le Padre Pio.
Saint-Charbel,
oui.
Son corps soit de lui, parce que j'en ai même une amie dans mon avant-hier.
Oui. C'est pas de l'huile au sens propre, hein, c'est un liquide physiologique qui sort de lui. Ensuite, il y a de l'huile qu'on place près du tombeau. et qu'on donne aux fidèles.
Est-ce qu'il paraît les corps, ils sentent bon, ils
certains ils sentent bon, oui. Eh bien, parce que l'Église fait une... Depuis quelques siècles, l'Église fait une reconnaissance du corps systématiquement. Donc on déterre le cercueil et on ouvre pour voir. Oui, lors d'un procès de béatification. Et alors, si par accident on ouvre le corps d'une sainte personne et qu'on trouve qu'elle est incorrompue, et, alors, saint Alfred Schuster, qui était vraiment un saint homme, mort en 1954, son corps a été retrouvé parfaitement incorrompu en 1985 lors de l'exhumation canonique. Mais il a été soumis à un traitement conservateur après la mort. Donc le fait a été reconnu comme exceptionnel parce qu'il était parfaitement intact. Or, même lorsqu'on met du formol, le corps il résiste pas 50 ans. Jean 23, lui, a eu un traitement exceptionnel avec des produits contre la corruption extrêmement puissants. Donc quand on fait la reconnaissance du corps de Jean 23, on l'a trouvé confit, vous voyez, mais donc on ne peut pas le reconnaître comme miraculeux. De toute façon, c'est pas nécessaire. L'Église ne se prononce pas forcément. On déclare que le corps est incorrompu, mais voilà. Saint Pie IX, lui, je crois quand même que son corps. Pie IX, hein, on a ouvert son corps, on a ouvert le cercueil, il était incorrompu. Mais les papes subissaient parfois un traitement. Mais Saint Pie IX n'en avait pas subi du tout, on en était certain. Et lui a été trouvé dans un état de conservation. Alors voyez, vous avez... Alors, parmi tous ces cas qui vous sont donnés, voyez, par exemple, la bienheureuse Anne-Marie Jouvet, fondatrice des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, morte en 1851, le corps était flexible, c'est-à-dire que les bras étaient... On pouvait vous assurer qu'un corps, c'est ou décomposé ou raide, hein, s'il est sec, mais pas jamais flexible, surtout 60 ans après la mort. Mais qu'est-ce que je veux vous dire en conclusion ? C'est que l'Église se prononce rarement. Et faites attention à ce que j'ai dit là, ils ont cherché plein d'exemples hein, dans ces documents. Mais pour Saint Charbel, ou pour les hosties de Sienne, là l'Église s'est prononcée, et très clairement, et c'est totalement miraculeux. C'est tout. Et le miracle de Lanciano, la même chose. Le miracle de Santarém, la même chose. Benoît XVI a encore envoyé un rescrit à Santarém, où on a vu, pendant son règne, en donnant des indulgences à tous ceux qui viendront adorer l'hostie de Santarém. Si vous voulez, on a, sur tous ces faits, dont certains ne sont pas authentifiés par l'Église, vous les écartez, vous en prenez une vingtaine totalement authentifiée par l'Église, et puis c'est tout. Et cela doit nous étonner. Parce que l'Église admet que Dieu puisse nous étonner. Miror, ça veut dire regarder. Ça donne miroir. Se regarder dans un miroir, miror. Et donc, miracle, c'est ce qui est remarquable. Qu'on regarde avec des yeux ronds comme des soucoupes, vous voyez. C'est ça un miracle, voyez. Vous voyez, comme disait Grégoire XVI, mirarivos, étonnez-vous. Comment on peut dire qu'il y a une liberté de conscience? La conscience doit chercher la vérité. Elle ne doit pas être indifférente à la vérité. Voyez-vous, là je vais vous distribuer maintenant, avant que vous partiez, j'ai raté... Alors voilà, ça c'est le crucifix. Le crucifix du miracle est celui-ci. Donc tout le monde a vu ce crucifix prendre le calice. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Celui-ci. En Inde, en 2001, dans l'hostie est apparu le visage du Christ couronné d'épines. L'archevêque du diocèse a écrit à propos de ce prodige. pour nous croyants, ce que nous avons vu et ce à quoi nous avons toujours cru. Si notre Seigneur nous parle en nous donnant ce signe, c'est qu'il attend notre réponse. L'hostie en soir contenant l'hostie miraculeuse est conservée dans l'Église. Vous avez le Christ ici. Cette image du visage du Christ n'est pas faite de main d'homme. On est en 2001, hein. Il faut assurer qu'il y a suffisamment de personnes pour tout surveiller et pour quand l'image est apparue. Ici, c'est l'hostie de Faverney. Vous voyez, l'hostie qui est restée en l'air pendant des heures, pendant l'incendie de l'abbaye. Donc je vous laisse distribuer tout ça. Voilà. Tout ce surnaturel et le miracle du soleil le 13 octobre devant 40 000 à 70 000 personnes. Saint Vincent Ferrier, un jour, il entre dans une ville et il y avait des jeunes. Je ne sais pas s'il était déjà religieux. Alors, je vous donne deux petits miracles de Saint Vincent Ferrier. Quand il était dans le ventre de sa maman visitait des personnes malades, une vieille dame aveugle. Sachant qu'elle était enceinte, la vieille dame aveugle voulait sentir l'enfant dans le ventre de la maman. Demande originale à laquelle la maman a accédé. La dame aveugle a posé ses mains et son oreille sur le ventre de la maman et s'est redressée guérie. Vous voyez ? Et très impressionnée, à titre personnel. Et elle a dit : que sera cet enfant ? Si, dès le ventre de sa mère, il obtient des miracles. Alors qu'il avait 15-18 ans, il entrait dans une ville et des jeunes gens se moquaient de lui à la porte de la ville. Certains étaient sur les remparts. Il y en a un qui a glissé et qui est tombé lourdement et qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à se redresser. Il restait par terre et totalement inerte. Bon, il avait fait une chute d'environ 10 mètres. Ça se comprend. Saint Vincent Ferrier est venu vers lui, lui a pris la main et l'a relevé d'un coup. Et lui a dit : on ne se moque pas de Dieu. Voilà. Et lui, ça c'est sûr. Ça. Et tous ses camarades ne se sont plus jamais moqués d'un prêtre ou d'un religieux ou de qui que ce soit. Mais si vous voulez, il y a 800 et quelques miracles pour Saint Vincent Ferrier. On s'épuise avec Saint Vincent Ferrier. Quand il prêchait, on l'entendait dans les rues adjacentes de la place jusqu'à des centaines de mètres. Et voilà. Alors, à la fin des temps, Enoch et Élie viendront et feront beaucoup de miracles. Et l'Antéchrist fera beaucoup de prodiges. Donc à la fin des temps, vous serez servis. Il y aura plein de miracles et tout, ça sera très amusant. Voilà. Et finalement, l'Antéchrist fera mourir Enoch et Élie et laissera leur corps à l'air libre, à la vue de tous, là où ils seront exposés. Et au bout de 3 jours, Enoch et Élie ressusciteront, mais là pour aller au ciel. Imaginez, ça va être grandiose. Là pour l'instant, on est dans un certain marasme au point de vue miracle. Mais il y en a encore, hein, les miracles eucharistiques de 2000, 2001, tout ça, enfin de 2013. Voyez. Et il y a des miracles privés aussi, des histoires qu'on raconte. Vous avez des personnes qui ont pris des hosties, qu'ils ont pointées et qui ont saigné. Mais ça, c'est pas reconnu par l'Église. Mais ne vous amusez pas à le faire pour voir ce que ça fait. Allez. Moi, la personne qui a fait le sacrilège m'a relaté son sacrilège et m'a dit il y avait l'hostie qu'elle avait prise perlait des gouttes comme de l'eau qui était d'un parfum intense. Et une personne perturbée, psychologiquement très perturbée, et qui avait gardé une hostie et la gardait chez elle. Et cette hostie a comme pleuré, si vous voulez. Et donc elle a ramené l'hostie à l'église parce que le miracle lui-même l'impressionnait malgré sa folie. Vous voyez. Alors, comme elle était folle, peut-être que ce qu'elle avait dit était faux. Oui.
Moi j'ai une question, est-ce qu'on a le droit de garder chez soi des reliques de saints, par exemple ? Chez nous on en a.
Oui, 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 mais dans un endroit très respectueux. Pas dans un placard ou voilà. Il faut qu'ils soient, comment dire, honorés. Et s'ils ne sont pas visibles, il faut qu'ils soient dans un endroit, voilà, dans une belle boîte, debout, comment dire. Enfin voilà, on doit les conserver avec beaucoup de respect. Comment ?
Vers le point de prière.
Oui, par exemple.
Mais ils sont récupérés.
Oui. Alors, par contre, il y a des grandes reliques, on doit les donner à une église. Si vous avez un morceau d'un os complet ou la tête.
C'est une religieuse de ma famille qui a été stigmatisée.
Oui.
Et qui a reçu les apparitions de la Sainte Vierge, demandant la consécration de la France à la Sainte Vierge.
Oui.
Et donc,
elle a été béatifiée.
Ben non, donc c'est pas vraiment une sainte.
Ben non, c'est peut-être une sainte aux yeux de Dieu. Hein, mais...
yeux de Dieu,
oui. Donc là, vous avez totalement le droit.
Donc c'est pas gênant.
Non. Et il y a, moi, par contre, on m'a raconté une personne, la mère d'une personne qui me l'a dit, sa mère s'est convertie parce qu'elle avait eu des épreuves épouvantables. Et elle en voulait à Dieu, elle en voulait à Dieu, elle en voulait à Dieu. Du coup, elle a pris une hostie lors d'une communion. Elle est allée chez elle, elle a mis l'hostie sur la table. Elle est allée chercher un marteau pour frapper l'hostie. Et elle est arrivée, elle a armé son bras et elle n'a jamais pu descendre son bras. Elle était bloquée. Alors, un médecin vous dira, c'est une paralysie nerveuse, parce que elle était quand même croyante, tout ça, elle n'a pas pu descendre le bras. Eh bien, il n'empêche que elle a armé son bras, elle n'a pas pu descendre son bras est devenu paralysé, il ne reprenait son mouvement que si elle ne voulait plus frapper. Eh bien, elle s'est convertie, elle a accepté l'épreuve qu'elle vivait, enfin voilà. Et donc, le bon Dieu a fait quand même un miracle eucharistique pour elle, rien que pour elle. Elle a ramené l'hostie au prêtre. Mais, normalement, le prêtre ne peut l'absoudre. Parce qu'il y a eu sacrilège eucharistique. Donc, il faut demander à Rome la permission de l'absoudre. Pendant l'année de la miséricorde, les chanoines pénitenciers, des prêtres choisis par l'évêque, un seul par diocèse, pouvait absoudre même les sacrilèges eucharistiques. L'année de la miséricorde est terminée. Les avortements peuvent être relevés par tout prêtre si on savait qu'ils étaient punis d'une excommunication. Et les femmes qui savent qu'il y a une excommunication qui doit être levée spécifiquement lors de la confession doivent la demander. Celles qui ne le savaient pas, cette excommunication n'est pas automatique. Si on est dans l'ignorance, on n'encourt pas cette peine. Par contre, si pour un sacrilège eucharistique, il faut savoir qu'il y a une peine d'excommunication majeure que seul le pape peut lever. Donc il faut aller à la pénitencerie apostolique. On peut rester dans le secret de confession. Le prêtre vous entend en confession, dit « Je ne peux pas vous absoudre. J'écris à Rome, revenez. » C'est assez grave quand même. Hein. Et revenez dans une semaine ou dans un mois ici et j'aurai les pouvoirs venant de Rome. Et la pénitence. Donc hop, Rome renvoie un rescrit. On peut ne pas mettre le nom. Hein, c'est le... un tel a fait ce sacrilège eucharistique. Le pape lui pardonne au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et il devra faire un pèlerinage dans un sanctuaire le plus proche de chez lui, parce que c'est pas un chapelet hein, dans ces cas-là. Oui.
Non, mais en fait, c'est une question qui avait un lien avec tout à l'heure, mais je pense.
Oui.
Excellent.